Vous écoutez RTL.
RTL.
La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue.
La curiosité est un vilain défaut.
Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La voix et la poésie d'Antoine de Saint-Exupéry sur RTL. Saint-Ex, pilote, aventurier, écrivain, son Petit Prince est l'un des livres les plus lus dans le monde. Et sur RTL, dans la curiosité, Patrick Poivre d'Arvor nous fait découvrir son univers. Vous avez une histoire presque personnelle, Patrick, avec Saint-Exupéry. Laquelle ?
D'abord parce que c'était un camarade de mon grand-père qui lui-même était aviateur. Lui avait fait la Première Guerre mondiale, donc il était à ce moment-là un des très rares à se balader dans le ciel. Saint-Ex avait 4 ans de moins que lui, mais ils étaient assez liés. Et puis surtout, ma grand-mère a été très très liée avec Consuelo Saint-Exupéry, qui était donc la veuve de Saint-Ex, que j'ai bien connue jusqu'à mes 20 ans. Elle est morte à peu près à cet âge-là que j'avais. Et je l'ai beaucoup rencontrée à Grasse, où elle habitait, ou à Monaco, où habitait ma grand-mère.
Et quand vous étiez gamin, à l'âge de 7-8 ans, vous dites que vous étiez le fils de Saint-Ex, c'était un petit mensonge pour vous protéger des grands de la cour d'école, c'est
oui,
ça?
Oui, alors je l'ai reconnu récemment dans ce livre, en effet. Bon, ça m'est arrivé une seule fois, mais oui. J'avais deux ans de moins que la plupart de mes camarades, donc ils avaient quand même une bonne tête de plus que moi, ils oui. étaient assez impressionnants et j'étais pas le plus costaud des épinettes, là, et donc c'est sûr que quand j'ai sorti ce truc, là, pour les impressionner, ça a marché. Ça m'a bluffé, je savais pas qu'ils connaissaient, d'ailleurs, Saint-Ex, mais ils connaissaient Le Petit Prince, ou ça leur disait quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai pris une aura très, très différente, et j'ai bien vu qu'on m'a foutu la paix pendant le reste de l'année scolaire.
Patrick Poivre d'Arvor, vous publiez Saint-Exupéry, le cartable aux souvenirs, c'est chez Michel Lafond. Vous l'avez vraiment récupéré, ce cartable?
Oui, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, il y a un an et demi à peu près, lors d'un festival de la correspondance à Grignan, j'ai été approché par un employé municipal qui m'a dit, vous savez, je détiens un cartable qui a appartenu à Saint-Ex. Alors,
vous n'y croyez pas trop.
Hein, j'ai vu le cartable qui était un peu fatigué avec un veau retourné, mais il y avait quand même 3 initiales, A-S-E, en lettres d'or. Et j'ai appelé l'un de mes amis, qui est un bon spécialiste, qui m'a dit, mais oui, c'est tout à fait normal, parce que quand il habitait à New York, il avait longtemps vécu à New York, Saint-Exupéry, il était dans une rue où il y avait un maroquinier, et il se trouve que sa femme, Consuelo, lui a offert beaucoup d'objets de cuir, donc ce cartable existe, il a été la plupart du temps avec lui dans ses avions quand il partait en mission.
Donc c'était son cartable de pilote, pas d'écrivain.
De pilote, voilà, de pilote, et je pense pas qu'il avait vraiment une sacoche particulière d'écrivain, mais c'est là qu'il mettait ses plans de vol, c'est là que... Et surtout, il mettait tous ses secrets, parce qu'il se trimballait avec cela tout le temps, sauf pour la dernière mission, puisqu'il l'avait donné, il l'avait laissé à New York avant de partir.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Patrick Poivre d'Arvor, qu'Antoine de Saint-Exupéry avait perdu son père très jeune, il avait 4 ans, c'est
4
ça 4
5
ans,
oui.
4 ans à peine. La famille de Saint-Exupéry se retrouve donc dans une belle demeure, un château du 18e, à quelques kilomètres de Lyon, dans un documentaire que vous aviez réalisé pour France 5. La maman d'Antoine de Saint-Exupéry, Marie, racontait ses premiers souvenirs dans le grand jardin qui entourait la maison.
Premier souvenir, c'est Antoine suivant dans le parc avec une petite chaise verte. Et toutes les fois que je m'arrêtais, Antoine s'asseyait sur sa petite chaise et attendait que je reparte. Nous faisions comme ça tout le tour du parc. Wow. Ça se passait à Saint-Maurice-de-Raymond, la chère maison dont tu parles toujours. La maison était une maison sans style précis, mais agréable et spacieuse. Le parc était le paradis des enfants.
Ce parc, c'est le premier terrain de jeu du jeune Antoine de Saint-Exupéry.
Ah oui, parce qu'ils sont cinq dans la famille. Il y a d'ailleurs l'une de ses filles, qui s'appelle Simone, qui a raconté dans un très beau livre, qui s'appelle « Cinq enfants dans un parc », ses souvenirs d'enfance. C'est quelque chose d'inouï pour lui. Il est très proche de son frère François, qui a un an de moins que lui. Il vit tout le temps dans les arbres. Il invente des trucs, des cabanes, bien sûr, mais aussi des vélos, des trucs un peu bizarres.
Le jeu du chevalier aussi.
Ah oui, le chevalier incline, alors qu'il avait beaucoup d'importance pour
eux. C'était quoi ça ?
Bah, il était le chef, en gros, et il dirigeait sa tribu. Et la tribu, c'était son frère et les trois sœurs.
Et ça démarrait les jours d'orage. Et celui qui prenait la première goutte de pluie était désigné chevalier, c'est ça ?
Chevalier, ouais. Exactement. Il, très courageux déjà. Dès l'enfance, très très courageux. Et on voit qui va être plus tard. C'est-à-dire à la fois audacieux, il fait des trucs un peu à la limite. Hein. Il invente une espèce de petit moteur pour sorte d'arrosage automatique, mais le moteur, pas de chance, pète à la figure de son frère, qui est complètement ensanglanté. Antoine est persuadé de l'avoir tué. Et là, il reçoit une belle leçon de la part de sa maman, qui lui dit « Non, tu es responsable, mais tu n'es pas coupable. »
Ah, c'est joli. Patrick Poivre d'Arvor, on surnommait Antoine de Saint-Exupéry « Pic ». La lune, c'est joli. Oui. Pourquoi ?
Eh ben, en grande partie parce qu'il avait un petit nez en trompette, donc il se relevait vers la lune. Oui. Mais aussi parce que quand il était enfant, il était beaucoup dans la lune. Beaucoup dans la lune. Ça lui a été reproché. Et ça lui a été reproché comme pilote, d'ailleurs. Parce qu'il était, lors, par exemple, de son premier brevet, il était un peu vraiment ailleurs. Quoi. Et il fait un atterrissage très olé-olé. Et plusieurs fois, dans sa vie de pilote, il lui arrivera de toucher le sol dans des conditions qui n'étaient pas dans l'orthodoxie aérienne de l'époque.
Voilà. Sa mère raconte d'ailleurs à quoi ressemblait son premier engin volant.
Ils avaient inventé une bicyclette à voile. On avait demandé à la vieille gouvernante de fabriquer une voile avec un bras de lit. On avait fixé cette voile à la bicyclette et on s'est lancé à toute allure vers la fin du parc. Et il paraît qu'au bout du parc, les bicyclettes s'envolaient dans les airs. Ça, c'était la première expérience d'aviation.
Antoine de Saint-Exupéry, qui est né avec le siècle, en juin 1900, son enfance, elle a été bercée par les premiers exploits, les exploits des premiers pilotes. On va vous raconter son baptême de l'air dans un instant, mais aussi le premier drame dans la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, la mort de son frère. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, avec Patrick Poivre d'Arvor, on découvre la vie d'Antoine de Saint-Exupéry dans la curiosité. Saint-Ex, le pilote, l'écrivain, l'aventurier, le héros de guerre, qui s'est d'abord, on le découvre dans votre livre, Patrick, ennui et ferme. C'était quoi son premier job ?
Il faisait le même job que mon père, donc je peux tout à fait le comprendre. Il était VRP. Voilà, il a vendu des camions. Et puis avant, il avait été représentant pour une firme de textile. Mais il s'est ennuyé abondamment tous les soirs. Il était dans un petit bistrot différent, dans un petit hôtel minable.
C'est une vie de solitude aussi.
Du tout. Oui, c'était une vie de solitude. Bon, il se cherchait hein, au départ. D'abord, il a voulu faire naval, comme je vous l'ai dit. Il voulait donc d'abord être marin, et puis ça n'a pas marché. Donc après, il s'est cherché, il a trouvé ce job, sa mère s'inquiétait pour lui.
Ça nourrit sa frustration, ça nourrit son envie d'aventure ?
Bah, oui, parce qu'il est toujours dans ce désir d'aventure. Il a commencé dès l'âge de 12 ans à voler, il a toujours le désir de voler. Mais
c'était comment son baptême ?
Alors son baptême, c'est très étrange, en effet, c'est à Ambérieu, donc à quelques kilomètres de l'endroit où il habitait, Saint-Maurice-de-Raymond, dont parlait la mère. Et là, il y avait un aérodrome. Et il va avec son vélo, le fameux vélo, pas celui qui avait une voile dans le dos, mais enfin un vélo quand même. Il va sur l'aérodrome et il croise deux frères et qui faisaient de l'aviation. C'était très dangereux à ce moment-là. Il y avait beaucoup de meetings, mais il y avait beaucoup de chutes, il y avait beaucoup de morts.
Oui, on est en 1912,
on est en 1912, hein, donc c'est quand même très peu de temps après le saut au-dessus de la Manche de Louis Berriot. Et puis finalement, il approche ce mécanicien et puis il dit mes parents m'ont autorisé à faire un vol. Il était gonflé parce que quand même le père était mort et la mère, vous pensez bien que jamais elle aurait donné son autorisation. Et donc ils l'ont pris, puis finalement il a fait un petit tour au-dessus d'Ambérieu et c'est comme ça qu'il a commencé. Il a été tout de suite fasciné, mais il savait pas ce qu'on pouvait faire de ça. La guerre était terminée et après il y avait plus de possibilité de faire quoi que ce soit avec un avion.
Alors, on va raconter comment il est devenu pilote, mais il faut d'abord revenir sur le drame de l'adolescence, de la jeunesse d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est la mort de son frère, François. Ils étaient très proches en âge.
Ils avaient un an de différence, oui.
Ils faisaient tout ensemble, quoi.
Et Saint-Ex avait 16 ans, il venait juste de passer son bac. Ouais. Et il passe même son oral. Il va à Lyon pour passer l'oral. Et quand il rentre le soir, la mère est en larmes. Il vient pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il l'est reçue et la mère est en larmes parce que son autre fils va mourir dans quelques heures.
Il va mourir de quoi, François ?
Il va mourir d'une sorte de pneumonie qui s'est très mal guérie. Et il va y avoir quelque chose d'assez bouleversant, c'est qu'en pleine nuit, François le fait réveiller par une gouvernante et le demande à son chevet. Et là, cet enfant de 15 ans va avoir une attitude extraordinairement adulte et il va commencer par lui dire « Voilà, je te fais mon légataire universel. » C'est-à-dire que voilà, ce que j'ai à te léguer, c'est un vélo. Tout ça, il le raconte dans un livre et c'est absolument magnifique. Et puis, à un moment donné, l'enfant dit « Ce corps est trop lourd à porter. Je ne vais pas pouvoir, je vais trop loin. Au revoir, Antoine. » Et à ce moment-là, il meurt. Et Antoine va avoir la force, pour un garçon de 16 ans, ça m'a toujours énormément impressionné, de le photographier à ce moment-là sur son lit de mort. Il y a une très belle photo que j'ai reproduite dans ce livre. Et c'est évidemment son premier choc et la première émotion violente de sa vie.
Cette photo, vous l'avez longtemps eue sur votre bureau.
Oui, c'est vrai que c'est jusqu'à la mort de ma propre fille, Solène, et je l'avais face à moi parce que cette photo m'impressionnait beaucoup. C'est un enfant qui a l'air d'être en plein dans la vie, simplement en plein dans le sommeil. Il vient juste de mourir depuis une heure.
Et ces mots, tu comprends, c'est trop loin, je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. On va les retrouver dans Le Petit Prince.
Dans Le Petit Prince. Au fond, on peut penser que la fin du Petit Prince ressemble beaucoup à la fin de François. Il y a toujours beaucoup mille et une conjectures sur ce qu'il a voulu dire dans cette fin, puisque c'est une forme de suicide quand même, d'une certaine façon. Il sait que le serpent va finir par le piquer, et il va quand même vers le serpent parce qu'il veut aller dans une autre planète, et avec tout ce que ça a comme force symbolique.
Antoine de Saint-Exupéry va entrer dans l'aviation, entre guillemets, chez Latécoère, on est en 1926, et c'est un homme qui va jouer un rôle important à ses côtés. Il s'appelle Didier de Duras.
Didier Duras, on l'appelait la vache. Vous voyez, c'était son surnom, c'est vous dire.
Parce qu'il était vache.
Il était assez vache, oui, il était assez vache avec ses pilotes. Il avait été recruté par Latécoère. Latécoère avait eu une très bonne idée. Après la Première Guerre mondiale, il s'est dit quoi faire de tous ces avions qui ont servi à combattre, puisqu'ils ne servent plus à rien maintenant. Et puis il s'est dit pourquoi ne pas transporter le courrier avec ça. Et il demande un rapport à ses ingénieurs. Et ses ingénieurs lui disent « On a bien tout recalculé, c'est irréalisable ». Et lui répond « Donc, réalisons-le ». Et c'est lui qui a eu l'idée de l'aéropostale. Donc, il engage ce Didier Duras, qui est une sorte de garde-chourme majeur, mais très, 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 très malin, et qui lui-même engage de très grands pilotes, comme Marcel Rennes, comme Henri Guillaumet, comme Jean Mermoz, et comme Antoine de Saint-Exupéry. Alors, au début, c'est pas si facile, hein, parce que son premier vol, il est très peu apprécié. Il fait un vol à la Saint-Ex, quoi, un peu pique la lune, quoi. Et l'autre lui dit « Bon, écoute, moi, je t'engage, parce que si t'es pas mort cette fois-ci, c'est que tu mourras jamais. » Voilà, donc c'est vous dire que il était quand même assez fantasque.
Patrick Poirier, vous ouvrez pour nous le cartable au souvenir d'Antoine de Saint-Exupéry dans un livre qui est publié chez Michel Lafond. Elle est jalonnée d'accidents, la vie du pilote, de l'aviateur Saint-Ex. Et on en raconte un, cet accident en 1935, dans le désert. Il a de la chance ce jour-là, qu'est-ce qui lui arrive ?
Il a beaucoup de chance, oui, parce qu'il essaie de battre un record entre Paris et Saïgon. Un autre aviateur avait déjà ce record à son actif. Et lui, ils partent à deux. Et dans la nuit, il se repère plus très bien en approche de l'Égypte. Et il finit par toucher une dune. Et il va descendre au fond avec son avion qui explose à moitié. Mais il va descendre comme sur une luge. Il va se retrouver au pied de la dune. Mais après, c'est là que les ennuis vont commencer, parce que pendant deux jours, ils vont se retrouver tout seuls dans le désert, sans eau, sans rien, et ils vont être retrouvés in extremis par une patrouille qui est là, de bédouins. Et c'est comme ça qu'il va se sauver sa peau une première fois. Mais il y aura beaucoup d'autres accidents au Guatemala et ailleurs, parce qu'il était assez audacieux, il prenait des risques.
Jusqu'à ce dernier accident qui lui sera fatal, on est le 31 juillet 1944, au large de Marseille. Comment Saint-Ex est mort ? C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle que l'on aborde tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
Le petit prince, il aimait beaucoup les couchers de soleil.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il est l'un de ces héros français dont on aime partager le destin dans la curiosité sur RTL, Antoine de Saint-Exupéry, dont Le Petit Prince est le livre français le plus lu à l'étranger. Antoine de Saint-Exupéry, le pilote héros de l'aéropostale Antoine de Saint-Exupéry, dont l'univers a éclairé depuis l'enfance la vie de notre invité Patrick Poivre d'Arvor. Patrick, on va raconter ce 31 juillet 1944, jour de la disparition en mer de Saint-Ex. Dans quel état d'esprit est-il dans les jours qui précèdent ?
Il n'est pas très en forme. Il n'est pas très en forme parce qu'il a 44 ans, donc il se sent déjà âgé. Normalement, depuis l'âge de 40 ans, il ne devrait plus voler. En plus, il s'est un peu brouillé avec les autorités gaullistes. Il n'avait pas choisi entre le général de Gaulle et le maréchal Pétain. Il avait choisi le général Giraud en Algérie. Ça lui a été reproché par de Gaulle. Et seuls les Américains, qui l'admiraient beaucoup et chez qui il vivait, ont accepté de le reprendre comme pilote. Parce qu'il voulait vraiment combattre. Donc il part là-bas, en Afrique du Nord d'abord, puis ensuite à Bastia, à la base de Borgo, pour aller combattre. On est peu de temps avant le débarquement des Alliés en Provence. Donc il doit repérer sur la vallée du Rhône des défenses allemandes et il doit les photographier. Et il part pour cette mission et il part sans doute sans avoir dormi ou avoir dormi à peine deux heures après avoir écumé sans doute toutes les boîtes très louches de Bastia, avoir pas mal bu. Il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme parce que Consuelo, il ne l'a pas vu depuis très longtemps, que le ménage bat de l'aile, parce que justement, il sait que c'est peut-être son dernier vol. Le général américain qui a accepté qu'il reparte avait dit 5 vols, pas plus. Là, on en est au 7e. Donc normalement, c'est la fin de tous ses rêves. C'est pour ça qu'un certain nombre d'historiens ont pu imaginer qu'il s'est peut-être laissé aller et qu'il se serait suicidé.
Oui, on imagine, parce que l'avion n'est jamais revenu, l'avion de Saint-Ex. Il a disparu.
Complètement disparu. Alors, il a fait visiblement, il est allé jusqu'au bout de sa mission, mais c'est au retour qu'on perd complètement sa trace. On pense même pendant très longtemps, pendant une bonne cinquantaine d'années, on pense qu'il s'est abîmé au large de Nice, dans la baie des Anges, parce que sa mère, justement, que vous avez entendu tout à l'heure, Marie, disait « Mais moi, je l'ai entendu, ce fameux 31 juillet, je suis absolument persuadé qu'il est venu au-dessus de la maison, car c'était l'habitude d'Antoine que de battre de l'aile, si je puis dire, au-dessus de la maison de
faire
sa
un
maman.
Signe. »
Et donc, là, il y avait des nuages, mais elle était persuadée que c'était lui. Donc on était sûr, et les recherches d'ailleurs pendant très longtemps ont été entreprises dans cette baie des Anges. Et en fait,
jusqu'au 7 septembre 1998, exactement. Qu'est-ce qu'on découvre ce jour-là ?
À ce moment-là, il y a un patron pêcheur qui s'appelle Jean-Claude Bianco, qui est devenu un ami depuis, qui part avec son petit équipage pour essayer de ramasser le poisson qu'il faut. Il fait pas beau, la pêche est pas bonne. Il ramasse un peu de poisson et beaucoup de cochonneries et il décide de remettre le cap vers Marseille. Et pendant qu'il remet le cap vers Marseille, son second, qui est un Tunisien, commence un peu à trier le bon grain de l'ivraie. Mmh. Et puis, au moment où il va rejeter une espèce de bloc de concrétion sous-marine, il voit que ça brille un peu, il est un peu étonné, il prend son couteau, il découpe et il découvre une gourmette. Et sur la gourmette est marqué Antoine de Saint-Exupéry. Alors, il ne connaît pas. Pour dire la vérité, il n'a jamais eu Le Petit Prince, il connaît à peine Saint-Exupéry. Il va voir Jean-Claude Bianco. Jean-Claude Bianco, il est subjugué. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il ne sait pas quoi faire. Le temps d'arriver à Marseille, il se dit, tiens, je vais appeler mon ami Henri Delos, qui était le patron de la Comex, qui lui dit « Attends, bouge pas, je m'occupe de toi, je vais voir. Faut pas prévenir les autorités, parce que les autorités, dans ces cas-là, ils vous piquent le truc. » Ils disent « Ben non, c'est un objet qui appartient à l'État, point final. » Et on va prévenir la famille. Et ils préviennent la famille, et la famille n'y croit pas un instant. La famille est persuadée qu'il s'agit d'escrocs. Et d'ailleurs, quand ils envoient quand même la gourmette à la famille...
Ils la reconnaissent ?
Frédéric Daguet m'appelle...
C'est qui Frédéric Daguet ?
Frédéric Daguet est l'ayant droit de la famille Saint-Exupéry, mmh. celui qui s'occupe de la succession. Et aujourd'hui, c'est son frère Olivier qui le fait, mais Frédéric m'appelle, je présente le journal télévisé à l'époque où nous étions ensemble à TF1, Thomas, et il me dit, je peux venir, si vous voulez, dans le journal, présenter cette gourmette. Alors moi, je dis oui, je saute sur l'occasion. Mmh. Il va présenter la gourmette, et devant tous les téléspectateurs, notamment devant Jean-Claude Bianco, il dit, vous voyez, cette gourmette est un faux parce qu'il y a un accent sur Saint-Exupéry, c'est pas possible. Aux États-Unis, il ferait pas ça, etc. Et il remet la gourmette dans sa poche. Et donc, le pêcheur marseillais est effondré parce qu'on est en train de le faire passer pour un menteur. Et c'était bien la gourmette de Saint-Exupéry.
Comment on en a eu la certitude ? On a retrouvé l'avion aussi, c'est
oui,
ça ?
Oui, on a eu la certitude grâce à un deuxième personnage capital que j'ai rencontré de même, qui s'appelle Luc Van Rel, qui est un plongeur passionnant, qui depuis un bon bout de temps, dans la zone... plongeait et avait vu des tas d'épaves d'avions. Il dit, mais attendez, c'est possible, un Lightning P-38, c'était la marque de l'avion de Saint-Ex, j'en ai même vu trois. Mais celui qui est le plus proche de l'endroit que me dit être Jean-Claude Bianco, eh ben, on va vérifier. Ils ont regardé le numéro du moteur qui était fabriqué en Allemagne et ils ont vérifié, c'était bien l'avion. Et le jour... où je suis descendu avec le batiscaf de Henri Delos, qui était donc le patron de la Comex. Je descends sur cet endroit. Bon, c'est très, très émouvant. On voit des restes, on voit juste le train d'atterrissage. Puis après, on relève le train d'atterrissage. Et là, je me suis aperçu que j'étais face à l'avion de Saint-Ex. C'est un moment extrêmement émouvant.
Un moment que vous racontez dans ce livre Saint-Exupéry, le cartable aux souvenirs chez Michel Lafon. Il y a aussi évidemment toute l'histoire du chef-d'œuvre de Saint-Ex, Le Petit Prince. On vous la raconte tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h, comme tous les soirs du lundi au jeudi sur RTL. Et on découvre l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry grâce à notre invité Patrick Poivre d'Arvor qui publie un magnifique livre, c'est le cartable à souvenir aux éditions Michel Lafon, un cartable que vous avez vraiment, qui est estampillé, siglé, Antoine de Saint-Exupéry. Dans ce livre, dans votre cartable à vous, il y a beaucoup de photos, de documents, des extraits de ses carnets de correspondance. Il écrivait énormément, sans cesse, Antoine de Saint-Exupéry.
Oui, il écrivait beaucoup et vers la fin de sa vie, il était sur un manuscrit d'un livre qui pour lui avait beaucoup d'importance, dans lequel il parlait de Dieu d'ailleurs, qui s'appelait Citadelle, et qui n'a été publié qu'après sa mort. C'est pour ça que ce destin est inouï, parce que lorsqu'il écrit Le Petit Prince, j'imagine que vous voulez me faire arriver sur ce terrain-là, lorsqu'il écrit Le Petit Prince, c'est pas du tout son livre de priorité. On est en 1942, il est à ce moment-là à New York, il déjeune avec son éditeur, ses deux éditeurs, Hitchcock et Reynal, et avec la femme de l'un d'entre eux, qui parlait très bien français, et cette femme voit Saint-Ex et faire des dessins comme ça sur la nappe en papier du restaurant et lui dire, ah ben tu devrais faire un petit conte, quelque chose pour les enfants, tu dessines très bien, etc. Ah bon, tu crois, etc. Voilà, c'est comme ça. Et puis il se dit, allez d'accord, pour la fin de l'année, je t'envoie un conte.
Voilà. Donc c'est une commande.
C'est pratiquement une commande, ça démarre comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui l'obsède. Hein. Et il fait ça assez vite et pas de chance, le traducteur qui s'appelle Léo Louis Galantière tombe malade, il n'a pas le temps de publier ça, de traduire, pour traduire en anglais, pour Noël 42. Saint-Ex est un peu contrarié, mais pas plus que ça. Puis il part très vite en Afrique du Nord, il va à peine s'occuper du destin de ce livre. Le livre va être publié. De temps en temps, il va poser une question comme ça sur la publication du livre qu'il a à peine vu.
Donc il est publié d'abord aux États-Unis.
Aux États-Unis, ouais. Et d'abord en anglais. Et d'abord en anglais. On est en 1943, à ce moment-là. Donc, ils ont laissé passer Noël 42. Ça aurait été bien pour les ventes, mais tant pis. En 43, le livre sort. Et puis, se vend honnêtement à quelque chose comme 12 000 exemplaires. Et puis, après, en 1946 seulement, donc 2 ans après la mort de Saint-Ex, le livre sera publié chez Gallimard. En français, et ça sera en effet le livre vendu le plus au monde, le plus traduit au monde. Jamais un roman, jamais un livre de fiction n'a été aussi lu que Le Petit Prince.
Mais parce qu'il va plaire aux Français, il va toucher les Français.
Et pas que les Français, c'est ça qui est extraordinaire.
C'est un message universel en fait.
Oui, partout où on passe, vous rencontrez des gens qui ont vu ou qui ont lu Le Petit Prince dans leur langue, dans leur dialecte. Moi j'en ai rencontré dans le désert, j'en ai rencontré dans des endroits très très étonnants. Et on voit Le Petit Prince traduit dans à peu près 200 langues, quoi, un peu plus de 200 langues. Et à chaque fois, les gens trouvent quelque chose que vous ne trouvez pas vous-même. Et vous trouvez à 77 ans des choses que vous ne lisez pas à 7 ans.
Donc ces éditeurs lui avaient commandé un livre pour enfants. Finalement, c'est un livre pour tous les êtres humains.
Exactement, c'est un livre universel.
Mais qui raconte quoi ?
Qui raconte au fond une fable presque philosophique. L'histoire d'un petit garçon qui parle à son aviateur qui vient de rencontrer dans le désert et qui lui dit venir d'une autre planète. Et tous les petits garçons, tous les petites filles qui lisent à ce moment-là Le Petit Prince sont persuadées qu'il s'agit d'eux. Et que les planètes dont ils parlent, ce sont les fameuses planètes de la vie, quoi, qu'ils vont découvrir la vie. Et c'est vrai que chacune de ces planètes nous apprend un petit conte sur nous-mêmes. Et puis évidemment, il y a le renard qu'il faut apprivoiser. Et puis plus que ça, plus grave encore, vous le savez, Sidonie, la rose qui représente la femme avec ses épines. Évidemment, elle est tentante, elle sent bon, elle a des beaux pétales, tout ça, mais il y a aussi des épines.
Des hommes ont des épines aussi, vous savez.
Oui, enfin, beaucoup moins. On est beaucoup plus fragiles sur ce sujet.
Vous ne lancez pas dans ce débat, Patrick. Moi, j'essaye tous les soirs avec Sidonie, voilà. C'est très compliqué.
Enfin, toujours est-il qu'il nous raconte l'amour aussi. L'amour.
Bien sûr.
Il nous raconte l'amitié à travers le renard et la façon d'apprivoiser les hommes. Il nous raconte l'amour, il nous raconte les planètes, il nous raconte l'aventure, il nous raconte la vie, tout simplement, jusqu'à la mort. Puisque cette fameuse mort dont je parlais tout à l'heure, où il est piqué par un serpent, c'est une métaphore et c'est un beau livre, un beau conte philosophique, voilà, qu'on peut lire à tout âge.
Et les derniers mots que son frère a prononcés sur son lit de mort,
on les retrouve dans
Le Petit Prince, ce sont les derniers mots du Petit Prince. Et il y a beaucoup d'autres choses. On racontait tout à l'heure cet accident dans le désert. Évidemment, on retrouve aussi un peu de cette histoire personnelle, c'est sa vie.
Évidemment.
Et même la première phrase du Petit Prince, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Par quoi elle lui est inspirée ? Par sa mère, en fait.
Sa mère dessinait très très bien. Et elle lui a fait dessiner des moutons, ça on en est sûr. Pour le reste, après, d'où ça vient. Et on sait qu'il a dessiné un éléphant. Et puis qu'un jour, il s'est dit, pourquoi un éléphant ? Je vais le cacher, je vais le faire manger par un boa. Et le serpent qui mange le boa... qui mange l'éléphant, ça devient une sorte de chapeau pour la plupart des adultes. Et c'est là que, au tout début du Petit Prince, il dit, les grandes personnes ne pourront jamais comprendre mon dessin, ils ne pourront jamais rien comprendre à la vie, puisqu'ils prennent ça pour un bicorne, alors qu'en fait, c'est un éléphant qui est bouffé par un boa.
Patrick Poivre d'Arvor, est-ce que Le Petit Prince, on l'étudie à l'école? Moi, j'en ai pas le souvenir.
Alors, ça remonte à loin pour moi, mais bon, quand même. Des grands problèmes. Je vous parlais tout à l'heure des problèmes politiques qu'il avait eus pendant la guerre, n'ayant pas choisi, entre guillemets, le bon camp. Et comme vous le savez, juste après la guerre, eh ben, l'enseignement est dominé essentiellement par les gaullistes et par les communistes, par ceux qui ont gagné la guerre, entre guillemets. Et donc, il est écarté. Et même pas cité dans les écrivains combattants par Charles de Gaulle, il va prendre ça assez mal. Et pendant assez longtemps, il va y avoir une sorte de purgatoire. Et puis maintenant, non, aujourd'hui, évidemment, il est reconnu de tout le monde, mais il y a eu un moment un peu difficile dans l'immédiate après-guerre.
Est-ce qu'il se trouvait bon dessinateur, Saint-Ex ?
Il ne s'en vantait pas, en tout cas, mais on disait que c'était un bon dessinateur. Et c'est vrai que ses dessins sont formidables, moi, je les trouve magnifiques. Et quand je recevais des lettres, des cartes postales de Consuelo de Saint-Exupéry, qui m'appelait mon petit prince, et qu'elle accompagnait ça de dessins du petit prince avec des écharpes au vent, bah, je peux vous dire, j'étais sacrément fier. J'en ai reproduite une ou deux dans le livre.
Patrick, pour avoir les dernières pages de votre livre sont consacrées à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, qui lance, on l'a appris hier, je crois, avec l'astronaute Thomas Pesquet, une idée, un concours pour les moins de 25 ans. C'est une belle idée, vous pouvez nous raconter.
Il s'agit d'écrire une nouvelle, et Thomas Pesquet qui est en train de nous regarder là-bas, tout à l'heure on en parlait formidablement bien sur les télécommunications, aujourd'hui les télécommunications c'est essentiellement d'en haut, et Thomas Pesquet attend vos envois, donc il s'agit de raconter dans une nouvelle, une histoire qui a trait au Petit Prince.
Qui pourrait être la suite du
Prince,
ou s'inspirer du Petit Prince.
Chacun a le droit de faire ce qu'il veut du Petit Prince. Le Petit Prince appartient à tout le monde. Il est dans le cœur de chacun. Et il n'y a pas très longtemps, le 13 décembre, il y a eu une très belle cérémonie au Panthéon avec le ministre de la Défense, avec la ministre de la Culture, qui ont rendu tous les deux hommage à Saint-Exupéry. Et là, il y avait toute la communauté Saint-Exupéry. Il y avait le vrai filleul, pour le coup, François de Saint-Exupéry, qui était là, plus de 90 ans. Et il y avait toute la tribu. François Daguet, pardon. Il y a un de nos confrères aussi, Patrick de Saint-Exupéry. Enfin, c'était beau de voir cette communion-là.
Vous évoquiez, Patrick Poivre d'Arvor, les ayants droit, mais c'est en fait les ancêtres. Non, ça n'a rien à voir. Enfin,
si, c'est les descendants.
Les descendants,
je
veux dire.
Mais il n'a pas eu directement d'enfant.
Il n'y a pas un lien. D'accord.
Voilà. Ni lui, ni ses frères et sœurs n'ont eu d'enfant. Et donc, finalement, c'est du côté de la maman que se retrouve cette famille Daguet, qui s'occupe aujourd'hui de gérer le patrimoine très considérable de Saint-Exupéry, et surtout le patrimoine moral. Et ils font ça très, très bien.
Vous écoutez RTL.